à Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale qui répond un peu ou qui complète, disons, une émission de la semaine dernière sur est-ce que, je posais la question, est-ce que l'Église respecte l'intelligence? Et aujourd'hui, bien, c'est la foi est-elle opposée à la science? C'est la grande question qu'on se pose depuis des siècles. Je vais essayer de cerner le problème et puis de compléter ainsi l'émission de la semaine dernière pour arriver à répondre à certaines questions que se posent bien des jeunes aujourd'hui. Même, vous savez que des jeunes de 17-18 ans ont téléphoné des professeurs de religion dans des écoles secondaires, me disent que c'est un problème qui se pose continuellement. On revient constamment sur ces questions, évidemment, de Galilée, etc. Alors, c'est que ça arrive très très souvent, hein, que on se souvient que la science, au cours de l'histoire, a combattu l'Église, ça continue toujours. Le Concile Vatican II a reconnu les faits. Vous savez qu'il y a un texte dans Gaudium Spes, c'est-à-dire un des documents du Concile Vatican II, qui aborde cette question-là en 5-6 lignes, que je retire du Gaudium Spes, là. Qu'on nous permette, c'est les évêques du monde entier là, qui parlent, je le dis pour les jeunes qui connaissent moins ce que c'est que le Concile Vatican II qui a eu lieu dans les années 60, hein, qu'on nous permette de déplorer certaines attitudes qui ont existé parmi les chrétiens eux-mêmes, insuffisamment avertis de la légitime autonomie de la science. Source de tensions et de conflits, bien, elles ont conduit beaucoup d'esprits jusqu'à penser que science et foi s'opposaient. C'est donc dire que les évêques se rendent compte qu'il faut régler le problème. La science ne s'oppose pas à la foi et la foi ne s'oppose pas à la science. Est-ce que c'est bien vrai? Pour mieux comprendre les relations qui se nouent entre les croyants aujourd'hui puis le monde scientifique d'aujourd'hui, on peut prendre le temps d'observer l'Église dans son comportement envers la science tout au long de son histoire. Hein? Je m'inspire d'une revue des rédemptoristes. Ce sont des textes très bien écrits par des rédemptoristes, dont Jean-Marie Ségalène, surtout. Et le père Ségalène dit que saint Paul, d'abord, estime que la science enfle, mais l'amour édifie. Je trouve ça très beau. C'est dans la première épître aux Corinthiens. J'avais oublié cette parole. La science enfle, mais l'amour édifie. C'est très beau. Ça résume bien la question. Mais c'est pas tout d'avoir de l'amour et de penser que la science enfle. La science est aussi au service de l'amour. Vous verrez, oui. Il y a les pères grecs, les pères latins, ça c'est les anciens auteurs hein, des 1000 premières années, peut-on dire, qui élaborent une théologie tout à fait remarquable. Et ils adressent souvent des reproches à la science, mais souvent ils la louent. Alors, ils se contredisent. À cette époque, la science se cherche encore. Hein, saint Cyril d'Alexandrie, je vous en ai parlé le 27 juin 95, il y a bien longtemps. C'était au début des émissions, le deuxième mois des émissions. Il est mort, lui, en 444. Il n'a que du mépris pour les bavardages, dit-il, des Grecs. Pas très délicat. Il y a Lactance, je vous en ai jamais parlé, lui, qui dénonce la recherche scientifique. Il dit, et il s'est trouvé des hommes assez téméraires pour s'enquérir de la nature des choses célestes et terrestres que Dieu a voulu laisser secrètes et cachées. Alors, il n'était pas très curieux. L'astronomie ne l'intéressait pas, puis les sciences ne l'intéressaient vraiment pas. C'est triste. Par contre, il y a Clément d'Alexandrie. On dit souvent saint Clément d'Alexandrie, mais c'est faux. Hein? Il n'a jamais été canonisé, puis il n'a pas été reconnu comme saint Clément d'Alexandrie. Il est mort en 215. Lui, il stigmatise la paresse de ceux qui s'enferment dans le fidéisme, là, se contenter de croire. Hein. C'est l'erreur de ceux qui retirent à la foi tout support de la raison. Il faut croire, puis un point c'est tout, il faut pas raisonner, il faut pas essayer d'intelliger les choses. Hein. Faut bien intelliger notre foi quand même, comprendre, aller au fond des choses. Le fidéisme, puis qui renonce finalement aux études. On se contente de croire un point, c'est tout. Alors, ça, c'est Clément d'Alexandrie qui est mort en 215, puis il s'attaque déjà à ça. Lui, il respecte la science. Alors, comme vous voyez, ça fait depuis longtemps qu'on s'intéresse à ça. Et Origène, dont je vous ai parlé le 7 novembre 96, qui est mort en 253, donc il y a bien longtemps, il affirme que l'origine de toute science remonte à Dieu, et que la science peut nous aider à mieux comprendre la Bible. Saint Athanase aussi, dont je vous ai parlé le 2 mai 96, il est mort en 373, un grand saint, ce Saint Athanase, un tonnerre. Il fait remarquer que la contemplation de la création, c'est une source d'émerveillement. C'est vrai, hein? Quand on regarde à la télévision, on contemple la création qu'on nous montre de plus en plus, c'est formidable les émissions. Toutes les émissions qui nous montrent toutes sortes de choses que jamais nos ancêtres n'auraient rêvé de voir, même nos parents quand ils étaient jeunes. Et on voit ça aujourd'hui, on s'émerveille. On voit même l'univers à travers le télescope Hubble. C'est des images fantastiques. Puis les animaux, les insectes, les petites choses, les infiniment petits. Il y a Grégoire de Nazianze aussi, qui est mort quelques années plus tard, lui en 390. Il soutient que bien loin d'être nuisible en soi, les études profanes nous aident à pénétrer bien plus avant dans la connaissance du divin, et qui est l'auteur de la nature. Saint Augustin, bon, je vous ai parlé le 28 août 95, bien longtemps ça aussi, qui est mort en 430, Saint Augustin. Il contribue, lui, à faire passer l'Église de la méfiance envers la science à la confiance. Saint Augustin intervient avec clairvoyance dans cet éternel débat qui peut exister concernant les rapports de la science avec la Bible, et surtout dans le débat sur la façon d'interpréter la Bible, s'il faut l'interpréter littéralement, les textes, un point c'est tout, ou bien s'il faut aller au fond des textes, derrière les paroles, pour comprendre le vrai sens. Et sa position de principe, lui, à Saint-Augustin, c'est la suivante. Il dit, lorsque certains passages de la Bible semblent en désaccord avec les résultats de la science, il est nécessaire de reconsidérer l'interprétation de l'Écriture, car il ne saurait y avoir contradiction entre vérité scientifique et vérité biblique. Puis, au IXe siècle, il y a le fameux Irlandais Jean Scott Érigène, qui insiste sur le fait que la raison humaine est un don divin. Il y a donc raison. Pas l'insignifiance qui est un don divin. C'est l'intelligence. Elle est donnée à divers degrés, évidemment, quand on voit les grands génies, les grands savants dans l'Église. Là, on reste bouche bée, moi je reste tout petit devant ça, je trouve ça tellement fantastique. Alors, il insiste sur le fait, lui, que la raison humaine est un don divin, Jean Scott Érigène. Puis, il dit qu'il faut convenir de développer cette raison. Ensuite, il y a un pape extraordinaire qui s'appelait Gerbert d'Aurillac. Il est connu sous le nom de Sylvestre II. Il est mort juste après l'an 1000. Mais c'était, savez-vous, un moine, d'abord, qui était très, très cultivé. Puis, les gens viennent pour le consulter, Gerbert d'Aurillac, même avant qu'il devienne Sylvestre II, le pape. On vient le consulter aussi bien en théologie qu'en mathématiques, en physique, en chimie, en médecine, en zoologie, les animaux, la vie, en botanique aussi, toutes les plantes. Puis avec lui, foi et science, on peut dire, vivent en bon terme. Il y a déjà 1000 ans, tout ça. Il est né en 938. Ça fait donc 1000 ans. Pas des farces. Et à cette époque-là, les clercs, les moines, redécouvrent la science, puis la philosophie grecque. Comment ça? Mais c'est à travers les écrits des Arabes, les musulmans. Puis ils conservent, puis ils traduisent, puis ils diffusent les œuvres de l'Antiquité. Enfin, il y a saint Thomas d'Aquin. Bon, il y a des gens qui pensent que saint Thomas d'Aquin n'était pas aussi extraordinaire qu'on pense. Voyons, voyons, voyons. Je vous en ai parlé le 28 janvier au début de l'année, en 97. Il est mort en l'an 1274. Il n'est pas mort vieux, même pas 50 ans. Il réalise, lui, une synthèse entre la philosophie d'Aristote, là, ce grec, et la théologie chrétienne. Mais Il y a une grande condamnation, 3 ans après sa mort, qui est prononcée par l'évêque de Paris, un pauvre malheureux qui s'appelait Mgr Étienne Tempier. Mais il fait ça avec l'accord du pape, puis condamne une longue liste de 219 propositions de saint Thomas d'Aquin, et qui sont appelées, imaginez, des exécrables erreurs. C'était eux qui commettaient des erreurs. Alors, il y a une dizaine d'entre elles qui concernent saint Thomas, mort il y a 3 ans. Bon, il y avait raison pour des erreurs, mais pas pour celles de saint Thomas. Parce que saint Thomas va être canonisé quelques années plus tard, en 1323, puis il va même être proclamé docteur de l'Église. Comme quoi, l'Église parfois fait des erreurs sur des sujets comme ça qui sont pas des dogmes, là. Mais l'Église sait revenir sur elle-même, hein. C'était la gloire de l'Église de comprendre qu'il faut se corriger. Alors, peu à peu, le langage scientifique s'améliore. Et puis, les mathématiques, l'algèbre, bientôt le calcul infinitésimal, ça progresse à grands pas de géant. Les instruments de mesure, il y a des microscopes, la lunette astronomique, ça devient plus précis. Puis la science découvre que le monde est écrit, si on peut dire, comme dans un langage mathématique. Dieu est un immense mathématicien qui a créé tout ça. Et avez-vous déjà pensé à ça? Vous savez que il faut avoir des connaissances mathématiques extrêmement grandes, simplement pour faire la Terre, tout l'équilibre qu'il y a ici sur cette Terre, entre les eaux, et puis la Terre, et puis les plantes, et puis les animaux, puis le fait que cette planète tourne sur elle-même, puis elle tourne autour du Soleil à une bonne distance, c'est incroyable, incroyable. Alors l'Église d'alors s'en tient, comme la plupart des gens cultivés, à l'image du monde tel que le décrivait Ptolémée et Aristote, il y a des milliers d'années. La Terre immobile au centre de l'univers. On voyait ça comme ça. Entourée d'à peu près 20 000 étoiles. On n'en connaissait pas plus que ça. Et cette théorie, ça a comme la solidité d'un dogme. Et 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a Aristarque de Samos, le grec, là, qui avait proposé de considérer le Soleil comme immobile, puis la Terre gravitant autour de lui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est avant l'Église, c'est avant les chrétiens, avant Jésus-Christ. Il avait été jugé impie et menacé de mort. J'ai bien dit 300 ans avant Jésus-Christ. Mais cependant, en 1543, on le sait, il y a un chanoine polonais, quelqu'un me disait qu'il était allemand il y a quelques jours, j'ai pas osé le reprendre, l'astronome Nicolas Copernic, qui affirme que la Terre tourne autour du Soleil. Il a compris, lui. Il dit ça dans un ouvrage qui est dédié au pape Paul III. Saviez-vous ça? Puis il est bien accueilli par le pape et par toutes les autorités ecclésiastiques. Pourquoi? Parce que sa théorie révolutionnaire est présentée comme une simple hypothèse. Mais là va arriver Galilée. Je vous en ai parlé le 8 janvier, il y a près de 2 ans. 8 janvier 96, j'avais toute une émission sur Galilée pour expliquer qui était Galilée, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Je vous parlais de Galilée. Qu'arrive Galilée après Copernic, plusieurs années, plusieurs siècles après. Alors Galilée affirme, lui, c'est un Italien, Galileo Galilei, il affirme que la Terre tourne autour du Soleil, comme le chanoine Copernic en 1543, et comme le fameux Aristarque de Samos, qui, lui, dans le temps des Grecs, 300 ans avant Jésus-Christ, est condamné par les païens, comme on les appelle de l'époque. Alors, Galilée affirme que la Terre tourne autour du Soleil, puis cette affirmation, c'est pas une simple hypothèse, là, comme celle de Copernic, mais pour lui, c'est la réalité. Il a raison, d'ailleurs. Et il est, je vous explique ça dans l'émission du 8 janvier 96, combien il était ami du pape, qui était un savant, etc. Mais, pour des raisons d'interprétation de la Bible, il y a le cardinal Bellarmine, Saint-Robert Bellarmine, qui était un peu sévère, hein. Et qui menait une procédure contre Galilée, fait remarquer en 1615, dire qu'en supposant le mouvement de la Terre, on tourne mieux autour, dire qu'en supposant le mouvement de la Terre, on sauve mieux toutes les apparences, c'est très bien dire, cela n'offre aucun danger et cela suffit aux mathématiciens, mais vouloir affirmer que réellement, la Terre tourne avec beaucoup de rapidité autour du Soleil, ce serait courir un grand danger, non seulement d'irriter les philosophes et les théologiens scolastiques, mais de nuire à notre sainte foi en accusant Voilà le problème, en accusant l'Écriture sainte d'erreur. Quelle interprétation naïve, hein? L'interprétation de la Bible littéralement. Quelle erreur. Bref, en 1616, on est à peine, quoi, à 60 ans après Copernic. En 1616, la proposition que le soleil est le centre de l'univers, que la Terre se meut puis n'est pas le centre du monde, alors elle est condamnée. Quelle erreur. Elle est condamnée comme formellement hérétique, en tant qu'elle contredit expressément de nombreux passages de la Sainte Écriture. Voilà la raison. Alors c'est la rupture là, entre l'Église et la science. C'est pour longtemps. Pour longtemps. En effet, après avoir condamné ce qu'on appelle l'héliocentrisme, c'est-à-dire que le soleil est au centre de notre système planétaire, ben l'Église se heurte à la science sur la question des atomes, du vide, de la circulation du sang, et surtout de l'évolution avec Darwin. Car paléontologie, géologie remettent en question quoi? La chronologie de la Bible, la création du monde en 6 jours. Mon Dieu, qu'on était naïfs. Pauvres clercs qu'ils étaient naïfs. Ils auraient dû comprendre. Alors, est-ce que c'est une rupture définitive? Alors, on arrive au 20e siècle et un certain rapprochement s'opère peu à peu. Par l'intérieur de l'Église, il y a des hommes cultivés puis des papes éclairés qui renouent le dialogue avec la science. Il y en a déjà eu avant. Mais ils n'osaient pas se prononcer de façon aussi claire. Après Pie XI, Pie XII, Jean-Paul II, il y a des allusions admirables à l'Académie pontificale des sciences qui sont tout à fait remarquables. Quand Jean-Paul II, en 1982, se prononce de façon claire, c'est superbe. Entre-temps, il y a le Concile Vatican II, dans les années 60, qui a adressé aux hommes de pensée puis de science un message de sympathie. L'Église n'est donc ni l'adversaire inconditionnel de la science, puis ni ce bastion de l'obscurantisme, même si parmi ses dirigeants, il y a eu des gens bornés, puis très mal informés. On doit l'avouer, puis l'admettre, puis... C'est pas facile, mais il faut bien l'avouer, hein. Il serait facile de signaler quand même tous les grands génies, écoutez bien, tous les grands savants qui se sont épanouis dans ses rangs depuis Copernic, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était chanoine, Pascal, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, Newton, Kepler, Louis Pasteur, je vous ai fait une émission sur Pasteur, Marconi, l'abbé Breuil, le père Théard de Chardin, jésuite, jusqu'à nombre de prix Nobel aujourd'hui. Il y a un livre remarquable, « Le savant et la foi », des scientifiques s'expriment, avec une introduction de Jean Delumeau. C'est paru chez Flammarion, ça. C'est paru il y a quelque temps. Ça nous a livré le témoignage de 19 scientifiques parmi les plus grands spécialistes de l'astronomie, de la biologie, de la chimie, de la géologie, de l'informatique, même des mathématiques, etc. Et ces savants expliquent comment ils réussissent à concilier leur foi chrétienne avec leur travail de chercheur scientifique. Il y a le livre aussi de Christian Chabanis. Dieu existe-t-il? Oui, un gros livre, c'est formidable. D'ailleurs, quand on observe l'histoire, savez-vous que c'est au christianisme que l'on doit non seulement d'avoir transmis le flambeau de la culture gréco-romaine à une époque là où les barbares menaçaient l'Europe, mais c'est au christianisme qu'on doit surtout d'avoir conservé l'héritage des grands penseurs de l'Antiquité grecque et romaine. Sans le travail des moines, en particulier des moines bénédictins, ni les mathématiques d'Euclide, ni d'autres travaux scientifiques ne nous seraient jamais, jamais parvenus. Saviez-vous ça? C'est dans les universités médiévales, Moyen-Âge, là, que se font les premiers pas de bien des sciences théoriques. La méthode expérimentale n'est pas encore reconnue dans le monde savant, et lorsque la science moderne paraît au 16e siècle, dans les années 1500, elle est soutenue, encouragée par des papes et des gens d'Église. C'est dans les pays chrétiens, oublions pas, que commencent à se développer les sciences expérimentales. Oh, je suis bien prêt à admettre qu'avec l'affaire Galilée, dont je vous ai parlé au 16e siècle, avec la philosophie des Lumières au 18e, il y a un fossé qui s'est creusé entre l'Église et le monde de la science. Mais c'est pas un fossé insurmontable. Depuis plus de 250 ans, je dirais, l'Église a reconnu ses torts. C'est pas d'aujourd'hui que l'Église reconnaît ses torts. Depuis 250 ans. Vous voulez des exemples? En 1741, le pape Benoît XIV accorde quoi? L'imprimatur, ça veut dire le permis d'imprimer, la reconnaissance comme quoi c'est un excellent livre, à la première édition des œuvres complètes de Galilée. 1741. Ils sont rayés par la suite de ce qu'on appelle l'index. C'était l'index des livres prohibés qui existaient dans le temps. Catalogue des livres dont le Saint-Siège interdisait la lecture. Il fait ça quelques années plus tard, en 1757. En 1822, il y a une décision du tribunal de l'Inquisition qui existait encore. C'était la fin du tribunal de l'Inquisition. Avec l'approbation de Pie VII, qui reconnaît officiellement la doctrine de la mobilité de la terre comme n'étant pas contraire aux Écritures. Ça, c'est 1822. Ça, c'est définitif, là. Bon, c'est reconnu officiellement. J'avais dit que ça marchait déjà depuis un bon bout de temps, d'ailleurs avec Copernic, avant Galilée. Enfin, le 3 juillet 1981, pour accéder aux suggestions du Concile Vatican II, le pape Jean-Paul II institue une commission pontificale qui est chargée d'étudier la controverse. La controverse au sujet de toute cette question du soleil puis de la terre. Hein? Et au 16e siècle, au 17e siècle. Elle a rendu son rapport le 31 octobre 1992, il y a 5 ans. Et il est écrit, il ne s'agissait pas de réviser un procès, mais d'entreprendre une réflexion sereine et objective en tenant compte de la conjoncture historico-culturelle. Il faut toujours penser à ça. Qu'est-ce qui se passait dans l'histoire à ce moment-là? Comment les gens réfléchissaient? Quelle était leur culture? Hein? C'est ce que dit Monseigneur Poupard, le cardinal Poupard, Paul Poupard, à cette occasion. Jean-Paul II conclut, lui, à partir du siècle des Lumières et jusqu'à nos jours, le cas Galilée a constitué une sorte de mythe. On revient toujours là-dessus, Galilée, Galilée, l'Église a tort, les Galilées. Ah, que je suis fatigué d'entendre ça. Il m'est arrivé encore en fin de semaine. Galilée, c'est un mythe, cette histoire-là. Ça a contribué à ancrer de nombreux scientifiques de bonne foi dans l'idée qu'il y avait incompatibilité entre, d'un côté, l'esprit de la science, puis son éthique de recherche, puis de l'autre, là, la foi chrétienne. C'est incompatible, d'après eux. Voyons. On a élucidé tout ça. Les récentes recherches historiques nous permettent d'affirmer, me semble, que ce malentendu absolument douloureux appartient désormais au passé, dit le pape Jean-Paul II. Oui, ça appartient au passé, et tournons la page et regardons de l'avant et remarquons qu'il y a beaucoup de prix Nobel actuellement, beaucoup de grands savants, puis il y a l'Académie pontificale des sciences au Vatican, constitué d'environ 70 savants de toutes religions et même des incroyants, qui en font partie et qui sont honorés de faire partie de cette grande Académie pontificale des sciences et qui discutent intelligemment des problèmes de la science et de la foi sur le plan de l'éthique, la morale. Pensez au père Moretti, Jean-Marie Moretti, qui a publié chez Mediapol « Progrès des sciences et réflexions chrétiennes ». Ce sont des entretiens sur la bioéthique, l'évolution, la création, etc. Qui est-il, le père Jean-Marie Moretti? C'est un docteur et science, ancien maître de recherche au Centre national de recherche scientifique à la Faculté de médecine de Paris. Il a été professeur de biochimie à la Faculté des sciences de Montpellier, puis a déjà publié « Biologie et réflexions chrétiennes » chez Fayard, « Le défi génétique » au Centurion, « La foi devant la science » chez Desclée de Brouwer. Puis il a publié ça, « Progrès des sciences et réflexions chrétiennes » chez Mediapol. C'est un prêtre. Je pose la question. La foi est-elle opposée à la science? C'est ça le problème. Il y a encore des gens qui osent dire que les progrès de la science sont à l'origine d'une civilisation où Dieu n'a plus sa place. Une civilisation sans Dieu, où la foi est morte. Ils veulent dire qu'il y a opposition entre la science et la foi, en somme, et que la foi, c'est un mythe, Dieu n'existe pas, l'univers existe par lui-même, tout s'est fait tout seul, le fruit du hasard, comme disait Jacques Monod. Pourtant, C'est Pierre-Emmanuel qui disait « Je suis certain que l'athéisme est l'hiver du monde, comme la foi en est le printemps. » Connaissez Pierre-Emmanuel, grand poète? Vous avez peut-être vu à l'émission « Rencontre » à la télévision de Radio-Canada, interviewé par Marcel Brisebois il y a bien des années. Presque tout le monde connaît le titre de cet ouvrage célèbre d'un journaliste, Georges Suffert, que vous avez aussi vu à Rencontre il y a bien des années, Georges Suffert. Quel était le titre de son livre célèbre? C'était un titre terrible qui lui avait été imposé par l'éditeur, m'a-t-il dit. « Le cadavre de Dieu bouge encore », publié chez Grasset. Le titre est... Il avait raison dans un sens, puisque Dieu met plus de temps à mourir dans le cœur des gens que dans les gros bouquins de philosophie puis de sciences humaines. Dans ces gros bouquins, on nous dit que Dieu est mort, que Dieu n'existe pas. On fait aucune référence à Dieu. On fait des émissions à la télévision de Radio-Canada sur le bonheur, comme il y a quelques jours, mais aucune référence à Dieu, comme si Dieu ne procurait pas essentiellement le bonheur. Il est la source de notre bonheur. Personne n'en a parlé. Pendant une heure, imaginez, des émissions d'une heure. Alors que la grande majorité des gens croient en Dieu et sont croyants et regardent la télévision puis paient des taxes pour ça. Incroyable. Oh, ceci dit, il serait bien déloyal, et c'est sûr, d'attribuer au progrès de la science la mort de la foi au cœur de bien des gens de notre temps. C'est pas la science qui tue la foi. Parce que la vraie science ne rend pas athée automatiquement, c'est sûr. L'histoire ancienne puis contemporaine nous prouve qu'on peut être un savant, je vous l'ai dit puis je vous le répète, on peut être un grand savant puis en même temps un croyant convaincu. J'arrêterai jamais de le dire puis de le répéter au cas où il y a des gens qui n'ont pas écouté le début de l'émission. Il reste que le savant n'a pas besoin de croire en Dieu pour faire évidemment des belles et des grandes opérations mathématiques exactes, peut être un athée. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour identifier correctement un fossile de telle ère glaciaire, ou pour mesurer la distance de la Terre à Saturne, ou pour prévoir l'éclipse de telle ou telle planète. C'est sûr. Le domaine de la science n'est pas le même que celui de la foi, c'est évident. C'est évident. Mais il y a un athéisme de méthode, on pourrait appeler ça comme ça. Ces athées-là prétendent qu'il ne s'agit que de ne pas faire appel à Dieu pour expliquer les faits scientifiques observables, mesurables, quantifiables. C'est normal, au fond. Moi, ça me surprend pas. Jean Rostand disait des choses comme ça, puis je suis d'accord. C'est pas nécessaire de faire appel à Dieu. C'est même peut-être la condition nécessaire d'une véritable activité scientifique. Parce qu'au fond, quand on y pense, Dieu n'est pas un élément du monde, un objet, là, parmi les autres objets. Il existe, et pour moi, c'est évident. Mais il n'est pas accessible aux instruments de mesure que les savants utilisent. Vous vous souvenez de Gagarine, là, l'astronaute russe, là, puis d'autres astronomes peut-être. Gagarine, il disait qu'il ne pouvait pas voir Dieu dans le ciel, à partir de la navette spatiale. Quand il disait à son tour sur la Terre qu'il n'avait pas vu Dieu, bon, il avait raison, on ne le voit pas. Mais quand il ajoutait « Dieu n'existe pas », bien là, il sortait de sa compétence scientifique pour faire de la philosophie, puis il faisait de la très mauvaise philosophie parce que Dieu, on ne le voit pas et personne ne l'a vu. Le savant observe les faits. Le savant classe les faits, il les mesure, il en explique le déroulement. Et le croyant, lui, accueille une révélation sur Dieu qui lui permet de découvrir le sens des êtres et des événements. C'est pas pareil. Quand on croit, on accepte une révélation que Dieu fait sur lui-même et qui explique qu'il est amour. Ça lui permet alors de découvrir le sens de nos vies, le sens des êtres, des événements. Au creux des événements, il y a toujours l'amour, même au creux d'un cancer. Il y a toujours cette certitude que Dieu nous aime et que nous sommes attendus par lui, au creux de nous-mêmes. C'est pas facile. Le savant est attentif au comment, lui, puis le croyant, lui, il est attentif à quoi? Au pourquoi. Et une des grandes affirmations du Concile Vatican II, je reviens encore là-dessus, a été précisément de rappeler au respect de l'autonomie des réalités terrestres. Les réalités terrestres sont autonomes. Il faut les respecter. Pour inviter les savants, les théologiens à mieux travailler dans les domaines de leurs compétences à chacun, mais à respecter le domaine des autres quand même. Ceci dit, il reste que la civilisation engendrée par la science contemporaine semble à première vue détourner l'homme de la foi chrétienne. Et comment cela, hein? D'abord, la science crée le sentiment que l'homme n'a plus besoin de Dieu pour expliquer les drames qui l'accablent, et on dit aussi que l'homme n'a plus besoin de Dieu pour satisfaire son besoin de bonheur ici-bas, comme on l'a vu à la télévision il y a quelques jours. Quand on dit que l'homme n'a plus besoin de Dieu pour expliquer les drames qui l'accablent, bien, c'est parce qu'il sait expliquer le phénomène naturel d'un orage sans faire appel à Dieu, c'est sûr. Et cette découverte, ça a engendré des comportements nouveaux, hein. Autrefois, on pensait que c'était Dieu. On voyait Dieu partout. Dans un orage, dans la pluie, dans... Alors, on sait qu'aujourd'hui, si on irrigue nos champs, ça va pousser. Autrefois, on se disait, on va appeler le prêtre, on va mettre des bannières, on fait les fêtes des rogations, puis on priait pour qu'il y ait du bon temps puis de bonnes récoltes. C'était bien au fond, parce qu'on voit bien qu'au fond, Dieu veille sur nous. Mais il y avait peut-être un peu trop de magie là-dedans. Il faut croire, mais ne pas croire que Dieu n'est qu'un magicien quand même. De même, dans le domaine médical, hein, on a des vaccinations, on a des opérations chirurgicales extraordinaires, la science est fantastique, la science médicale, ça fait diminuer la consommation des cierges, comme dit le père rédemptoriste qui m'inspire, je trouve ça très drôle, fait diminuer la consommation des cierges. Mais enfin, il est indéniable que les commerçants, au lieu de faire célébrer des neuvaines pour la prospérité de leurs affaires, ils en viennent à acheter des espaces publicitaires comme ils en achètent à Radio Ville-Marie pour annoncer ceci ou cela. C'est un fait. Il peut en résulter toutefois que l'homme oublie que Dieu voit sa misère. Oui, Dieu voit notre misère. Et l'homme a besoin, comme les femmes, nous avons tous besoin des mains et du cœur des autres hommes et des autres femmes pour nous aider à nous en sortir. Et quand on dit que l'homme n'a plus besoin de Dieu pour satisfaire son besoin de bonheur ici-bas, bien voyons, les fêtes religieuses d'hier semblent aujourd'hui se paganiser. Mais quand on lit les sermons des siècles passés, il y a bien longtemps que les chrétiens succombent à cette tentation. Les commerçants se chargent d'annoncer les fêtes profanes et religieuses bien des semaines à l'avance. On commence au début de novembre pour Noël. Si vous faites vos achats régulièrement, là, on risque pas d'oublier Noël. On risque pas d'oublier non plus même le Mardi Gras et Pâques avec tous les lapins et tout ça. Il en résulte très souvent que les chrétiens en arrivent à oublier le sens. Le sens du mystère de Noël ou du carême ou de Pâques. Qu'est-ce qu'on célèbre? On ne sait plus trop. On se contente de rester les yeux fixés sur la terre ou sur nos assiettes pleines de dinde ou de je ne sais quoi. On lève pas les yeux vers le ciel. Depuis, la science crée autour de nous un monde artificiel qui est bien bétonné. C'est tout urbanisé, c'est mécanisé, c'est robotisé, c'est informatisé, c'est aseptisé. Ça rend bien plus difficile le contact avec la nature, hein? Et donc avec une certaine contemplation de l'œuvre du Créateur. Mais n'oubliez pas la petite plante que vous avez chez vous, dans votre petit appartement, peut-être. C'est un miracle de Dieu. C'est une beauté. En tout cas, la vraie science n'a rien à dire pour ou contre Dieu. Ce n'est pas son domaine. Il n'a donc pas rêvé de trouver des résultats scientifiques qui seraient la preuve mathématique de l'existence de Dieu ou de la vérité de telle affirmation de foi. La science ne contredit pas la foi. Mais elle peut aider à croire. Elle peut aider à croire. N'oubliez jamais ça. C'est une grande nuance. C'est une idée chère, ça, Théard de Chardin. Je vous ai déjà fait une émission sur lui aussi. Je me souviens plus trop quand. Probablement le 10 avril, me semble, c'est l'anniversaire de sa mort. Il est mort un jour de Pâques, ce cher Pierre Théard de Chardin. Mais le père Teilhard de Chardin dit « Tout ce qui monte converge ». En somme, tout progrès, c'est ça que ça veut dire, tout progrès dans la connaissance, dans la vérité, quand il est mis au service de l'homme, ça ne peut que rapprocher de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut avoir le sens de l'admiration, de l'exaltation, de l'admiration de Dieu, de tout ce qu'il a fait. Et en effet, bien des points rapprochent le savant du croyant. L'un et l'autre ont la passion de la vérité. Ils sont des chercheurs et même leur recherche les conduit naturellement sur le chemin de l'humilité. Ainsi, oui, la vraie science peut rapprocher de Dieu et de Dieu qui est si humble lui-même. Avez-vous lu ça? L'humilité de Dieu de François Varillon. Ah, oh, c'est beau ce beau livre, tout petit. En vente dans les magasins de livres religieux. L'humilité de Dieu, de François Varillon. C'est un peu difficile à lire, mais pas tellement. La science contribue donc à purifier notre attitude religieuse, et en effet, elle nous délivre de la superstition qui consiste à avoir des interventions de Dieu ou du diable un peu partout. Voyons donc, il faut avoir une tête sur les épaules. Hein. Bien entendu, Dieu peut toujours faire des miracles. Je vous en parlerai, j'ai des tas d'émissions sur le miracle qui s'en viennent. Puis il en fait, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois. Mais l'attitude scientifique permet de purifier notre idée de Dieu. Et le Dieu de la foi chrétienne a tout à y gagner, hein, il prend sa vraie place, non pas celle d'un bouche-trou de notre ignorance. Là. Les gens disent, « Ah ben oui, vous croyez parce que vous en avez besoin » ou je sais pas quoi. Ben pas du tout. La vraie place de Dieu... C'est celle du Dieu amour qui donne sens et saveur à notre existence. Puis ensuite, la science est à l'origine des loisirs dont profite l'homme d'aujourd'hui, hein, dans les pays industrialisés, bien oui, pour se réjouir de la science pour ça. Ce progrès, c'est une chance pour l'homme, mais on n'utilise pas toujours nos loisirs à bon escient. Hein. Les loisirs peuvent permettre, heureusement, aux vrais croyants, qui ne se laisse pas fasciner par les tentations innombrables de la société de consommation, mais ça lui permet de réfléchir à sa vie. Oui, quand on a des loisirs, on peut développer sa culture chrétienne. On peut prier. On peut s'engager au service des autres. On peut s'engager, comme beaucoup, à Radio Ville-Marie. Nous sommes 175 bénévoles, paraît-il, à Radio Ville-Marie. Formidable! Et pense à tous les bénévoles dans le Québec, partout. C'est inouï, c'est par milliers. Vous écoutez l'émission qui suit la mienne. C'est plein de bénévoles. Puis de temps en temps, ça nous permet aussi de faire le point au cours d'une halte spirituelle ou d'écouter Radio Ville-Marie. Les loisirs, ça permet d'écouter Radio Ville-Marie. L'homme des cavernes n'avait pas beaucoup de loisirs. Il n'y avait pas Radio Ville-Marie en tous les cas. Et sa vie était courte. Hein? Il vivait 30 ans, 35 ans, les hommes des cavernes. Ils étaient accaparés par le souci de survivre, alors que l'homme d'aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui, grâce au progrès de la science, ils n'ont jamais disposé d'autant de temps pour réfléchir, s'ils le veulent, au sens de leur vie, au sens de leur mort. Je crois qu'il faut enseigner ça à nos jeunes enfants, très jeunes, comment utiliser leurs loisirs, puis il faut les faire réfléchir. Autrement, ils ne sauront jamais comment réfléchir. Revenons encore à la question que j'ai posée au début, n'est-ce pas? La foi est-elle opposée à la science? Eh bien, la science, sans terminant, la science permet à l'homme de progresser dans une maîtrise extraordinaire du cosmos. Pourquoi je parle de ça? C'est que si le progrès est encore très inégalement réparti sur la planète, hein, nous croyants, nous pouvons trouver dans ce progrès en devenir une raison nouvelle de louanger Dieu. Car la Bible nous rappelle cet ordre étonnant, un ordre que le Créateur nous a adressé. Remplissez la terre et soumettez-la. Bien entendu, soumettre la terre, ce n'est pas la maltraiter, et encore moins la dégrader ou la détruire. C'est la mettre au service de l'homme, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les temps, d'aujourd'hui et de demain. Et de demain, pensons à nos enfants, nos petits-enfants. De là l'importance, pour nous, chrétiens convaincus, l'importance d'un respect profond des équilibres naturels dont je vous ai parlé au début de l'émission, que Dieu est un grand mathématicien qui a construit cette Terre d'une façon absolument fantastique. Et les équilibres mathématiques sont importants. C'est important pour nous d'être de vrais écologistes, je dirais. On comprend mieux alors l'esprit dans lequel le pape Paul VI avait demandé que le psaume 8 soit emporté sur la Lune et par les premiers astronautes. Son vœu a été réalisé puisque sur la hampe du drapeau américain, qui a été fiché par Armstrong et Aldrin sur le sol lunaire, vous vous souvenez, on voit ces images souvent à la télévision, c'était le 16 juillet 1969, mais avaient été gravés les versets de ce texte de la Bible. « Ô Seigneur, notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre, ta majesté surpasse la majesté du ciel. » Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as mis tout à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta gloire est grande sur toute la terre. On peut dire que la vraie science est ambiguë. Faire attention, elle a pu permettre bien des conquêtes, qui sont des gains considérables, des gains définitifs pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui, mais elle fait planer sur notre monde des menaces proches et lointaines. Il y a la pollution de toutes sortes, des épidémies à l'échelle de certains continents, une destruction atomique, les manipulations génétiques, c'est très épouvantable, tout le reste. C'est dire la responsabilité du croyant face au progrès scientifique. Et avec le pape Jean-Paul II, l'Église s'adresse aujourd'hui avec confiance au monde des savants. Le pape Jean-Paul II a dit des choses tellement superbes. Quel génie, quel cerveau admirable mis au service de Dieu et des hommes. Il dit à vous, hommes de la pensée et de la science, pèlerins de la vérité, explorateurs des diverses branches de la science et du savoir, de l'homme et de l'univers, à vous qui vous soumettez à la fatigue de l'observation, de la pensée, de la recherche, afin que l'homme soit toujours plus homme et qu'il trouve dans la nature le milieu propre de son développement. À vous, bien, je demande de travailler pour la justice, pour l'amour, pour la paix, et de croire qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Église catholique est votre alliée. Cette Église qui aime la vraie science et la pensée droite, cette Église qui prie pour vous. Le pape Jean-Paul II s'est fort bien résumé la fantastique mission des scientifiques du monde entier. Je vous répète qu'on peut lire pour mieux comprendre tout cela. Ce petite plaquette publiée chez Mediapol, 76 pages seulement, c'est en gros caractères. « Progrès des sciences et réflexions chrétiennes » par Jean-Marie Moretti. Je vous rappelle qui il est, le père Jean-Marie Moretti, prêtre donc, et docteur en sciences, ancien maître de recherche au Centre national de recherche scientifique à la Faculté de médecine de Paris. Il a été professeur de biochimie à la Faculté des sciences de Montpellier, dans le sud de la France. Puis il a déjà publié « Biologie et réflexions chrétiennes »,« Le défi génétique », puis la foi devant la science. Oui, si nous écoutions vraiment ce que le pape nous dit quand il dit « Vous savez qu'un sursaut moral s'impose si l'on veut que les ressources scientifiques et techniques dont dispose le monde actuel soient réellement mises au service de l'homme. L'homme possède d'extraordinaires ressources scientifiques et technologiques et nous sommes convaincus que ces ressources pourraient être utilisées bien et plus efficacement pour le développement et la croissance des nations. Tout ceci suppose évidemment des options politiques et, de manière plus fondamentale, des options morales. Morales, j'ai pas peur du mot. Le moment est proche, dit-il, où il faudra définir à nouveau les priorités. Écoutez bien ce que le pape dit. On a estimé, par exemple, que près de la moitié de tous les chercheurs du monde étaient actuellement employés à des fins militaires. Et il pose la question. La famille humaine peut-elle encore persévérer longuement dans cette direction? Vous trouverez toujours une alliée dans l'Église chaque fois que vous vous emploierez à promouvoir l'homme et son développement. Oui, l'Église développe nos cœurs, nos intelligences. Et j'assistais hier à des funérailles extraordinaires, c'était si beau, à la cathédrale. Le père Benoît Lacroix célébrait, le Dominicain que vous connaissez. C'était les funérailles de la mère de l'organiste, Madame Hélène Dugal. Sa mère est morte, 81 ans. Et l'abbé Jean-Pierre Couturier, nouveau prêtre qui assistait Benoît Lacroix, chantait sur un texte de Patrice Latour-Dupin, une œuvre magnifique composée par le père Joseph Gélineau. Et le chœur polyphonique et l'organiste Christopher Jackson. Mais c'est surtout le père Benoît Lacroix qui tenait tout ça en main, par des prières superbes, admirablement choisies, d'une telle intelligence dans la foi, puis d'une telle espérance, et tous ces prêtres en vêtements blancs et sans la lumière redonnaient l'impression d'une ouverture sur le ciel. L'Église nous ouvre sur les temps futurs. Mais elle est plongée dans le temps d'aujourd'hui. Elle est un miroir d'éternité, comme le disent qu'on jouait aujourd'hui. Mais elle est aussi le miroir de ce que nous devons être. L'Église est belle. C'est à nous de faire qu'elle soit belle, car l'Église, c'est nous.